travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. La minorité capitaliste, le grand patronat, nous mène une guerre de plus en plus féroce. Les milliards qu'ils amassent sont réalisés à coups de licenciements, de suppression d'emplois, de blocage de salaires, d'augmentation du temps de travail et d'aggravation de l'exploitation. Ils sont réalisés à grand renfort de travail intérimaire et de sous-traitance, où les salariés sont plus flexibles et plus mal payés. Ils sont arrachés aux salariés des plus petites entreprises, priés de ne pas compter leurs heures parce que leur patron est étranglé par ce grand capital. Les régions, ravagées par le chômage, les centres-villes, désertés parce que le petit commerce est moribond, les millions de femmes et d'hommes, de jeunes, qui jonglent avec des petits boulots, les retraités dont la pension est inférieure au seuil de pauvreté, voilà le résultat de l'avidité insatiable de la classe capitaliste. On nous dit que la lutte de classe est dépassée. Mais elle est vécue tous les jours dans les entreprises. Ce sont les minutes de pause volées, les primes diminuées, les heures non payées, les RTT supprimées, les gestes et les postures qui usent la santé. Et c'est tous les jours pour des millions de salariés dans le privé comme dans le public. Prenez les négociations salariales qui se déroulent en ce moment dans la plupart des grands groupes. Un exemple, Michelin. Eh bien, Michelin prévoit 14% de plus pour les dividendes, mais pour les salaires, ce sera 1%. Chez Renault, le PDG grassement payé, Carlos Ghosn, a promis aux actionnaires 31% de dividendes supplémentaires. Pour les ouvriers, ce sera 0,6% d'augmentation générale. Eh bien, la voilà, la lutte de classe. Parce que je dénonce cette grande bourgeoisie, parce que je décris l'opposition entre le monde du travail et cette classe capitaliste, on m'accuse d'être schématique, caricaturale, voire violente. Mais c'est la réalité qui est caricaturale et violente. Comment ne pas être révolté par l'étalage des richesses, par ces jets privés, ces palaces, toutes les extravagances de la grande bourgeoisie, quand il y a des femmes et des hommes qui dorment dans la rue ou qui renoncent à se faire soigner faute d'argent? 21 milliardaires possèdent l'équivalent de ce que détiennent 20 millions de femmes et d'hommes dans ce pays. Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, patron de LVMH, a augmenté sa fortune de 8 milliards en 2016 pour atteindre 38,5 milliards. Drahi, le mania de la télécommunication, a doublé sa fortune, passant de 5,4 milliards à 12 milliards. La fortune de Beignet, la famille à la tête de Lactalis, est passée de 7 à 10,5 milliards. Et tout ça en pleine période de crise, alors que l'économie est stagnante et que la concurrence fait rage. Eh bien, cela n'a été possible que parce que l'exploitation a été renforcée à tous les étages de leurs empires. On nous présente toujours ces fortunes comme le fruit du travail mérité de valeureux entrepreneurs. Mais elles se sont construites sur le vol du travail de générations d'exploités et aussi sur la mise en coupe réglée de l'argent public. Parce que la grande bourgeoisie pille aussi les caisses publiques, aux dépens des hôpitaux, de l'éducation, des transports, et l'État vide volontiers ses poches. C'est de l'argent sonnant et trébuchant, des subventions ou des exonérations, mais ce sont aussi tous les services rendus quand les ministres se transforment par exemple en représentants commerciaux pour les Dassault ou pour les Bouygues. Alors oui, cette grande bourgeoisie commande l'État. Elle domine l'économie et elle pèse sur toute la marche de la société. Et elle nous conduit dans le mur en poussant les classes populaires vers la déchéance matérielle et la société à la déshumanisation. Parce que le chômage et la misère font aussi le lit de la concurrence, de l'individualisme, du rejet, voire de la haine de l'autre. Alors, dans cette campagne, il faut que nous disions aux travailleurs qui nous entourent: ne vous laissez pas abuser par les pantins qui s'excitent sur la scène politique. Regardez ceux qui tirent les ficelles. Regardez la classe capitaliste qui tient nos vies entre ses mains. C'est une classe parasitaire, anachronique et irresponsable. Et la guerre sociale qu'elle nous mène se poursuivra après les élections. Alors saisissons-nous de cette élection, de ce vote, pour dénoncer la dictature de la bourgeoisie, pour mettre en avant nos intérêts de classe et pour affirmer notre conscience d'avoir à nous battre pour les imposer. Patronat, c'est certain. Pour en revenir juste à cette campagne et comment elle se déroule, c'est vrai que cette campagne offre un spectacle inédit. Plusieurs candidats, sans être nouveaux en politique, se sont invités de façon inattendue. En plus de ce casting renouvelé, on a droit à des rebondissements avec des désistements, des ralliements, des tractations d'appareils, des divisions et bien sûr des démêlés judiciaires. Pour la première fois, on a donc un candidat à la présidentielle mis en examen et une autre menacée de l'être sous peu. Alors, cela donne un peu plus de piquant à cette campagne que d'habitude, lorsqu'on les voit tels que nature, avec leur arrogance propre aux privilégiés, et on les voit pris au piège de leur propre démagogie sur la justice, sur la tolérance zéro. Et puis, ils sont aussi pris en flagrant délit de mensonge. Eh bien, il faut garder tout cela en tête. Parce que la comédie électorale a repris, et puis elle suit son cours comme si de rien n'était. Et regardez comment tous les commentateurs prennent la moindre déclaration de ces gens-là pour argent comptant. Bien sûr, tous ces politiciens savent y faire pour faire oublier leurs incartades et leurs bassesses. À les entendre, on pourrait presque les prendre pour des enfants de cœur. Ils ont tous un petit mot pour les femmes, pour les retraités, pour les personnes handicapées, pour les agriculteurs, les commerçants, les jeunes. Ce sont tous de beaux parleurs. Mais au lendemain de l'élection, eh bien nous nous retrouverons toujours et encore confrontés au grand patronat qui décidera, lui, s'il ferme ou pas telle ou telle usine, qui décidera de reléguer les femmes dans les boulots les plus précaires et les plus mal payés. Les jeunes continueront d'être baladés de stage en contrat de qualification. Et le grand patronat continuera de faire de nous des invalides et des handicapés du fait de cadences et de charges de travail toujours plus lourdes. Et notre banquier, eh bien, il continuera de décider s'il accepte ou pas le découvert ou le crédit dont on a pourtant un besoin vital. Et cela, quel que soit le prochain président de la République élu. La réalité, c'est que tous ces politiciens ne changeront rien de ce qui est fondamental pour nous. Parce qu'ils ne veulent rien changer à l'ordre social et à notre condition d'exploiter. Beaucoup ont gouverné et on les a vus à l'œuvre. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ont compris et qu'ils feront différemment. Mais il suffit de les entendre, y compris celle qui n'a pas encore gouverné, Le Pen, pour voir que toute leur politique transpire la servilité vis-à-vis de la grande bourgeoisie. Un exemple. Ils parlent tous de la nécessité de lutter contre le chômage, de réindustrialiser le pays et d'investir. Mais il y aurait une chose très simple à faire, quelque chose qui ne dépend même pas des capitalistes, qui ne dépend que d'eux s'ils arrivent au pouvoir, ce serait d'utiliser l'argent de l'État pour construire le million de logements qui manquent aujourd'hui. Cela fait des décennies que l'on nous parle d'urgence en matière de logement. Eh bien, l'État pourrait très bien prendre le problème à bras-le-corps. Il pourrait lui-même embaucher en direct les maçons, les peintres, les électriciens, les ingénieurs et les architectes. Ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque, et ce n'est même pas l'argent, parce que tous ont prévu de donner des dizaines de milliards au patronat. La réalité, c'est qu'aucun n'a la volonté de faire cela, parce qu'ils veulent réserver l'argent public à la bourgeoisie. Alors vous pensez bien qu'ils ne prendront pas une seule mesure contraire à ses intérêts, ils la seconderont en menant une politique anti-ouvrière. Et les quelques mesures de leur programme, un tant soit peu favorables aux classes populaires, termineront, s'ils sont élus, à la poubelle, comme toujours. On nous appelle à voter, mais il s'agit de choisir le président de la République qui servira le grand patronat, qui l'aidera à attaquer nos conditions de travail, nos emplois, nos retraites. Il ne faut pas marcher là-dedans. Quand on est ouvrier, employé, chômeur, voter pour l'un ou l'autre de ses prétendants à l'Élysée, c'est voter contre son camp, c'est se vouer à être trompé et sacrifié. Vous connaissez peut-être l'expression très populaire en mai 68, la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Eh bien, c'est une expression qui est à remettre à l'ordre du jour. Ne vous laissez pas verser de belles paroles. Ne marchez pas dans le jeu truqué des élections. Utilisons notre bulletin de vote pour lever le drapeau de la conscience de classe et des luttes collectives. Travailleurs, c'est la grève. Et je l'ai dit maintes fois, je ne suis pas candidate pour devenir présidente de la République. Ni Arlette Laguiller, ni moi-même n'avons jamais rêvé de l'Élysée ou de Matignon. Nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système capitaliste qui est basé sur l'oppression et sur l'exploitation. Nous voulons le renverser. Et nous sommes convaincus que les travailleurs, les exploités peuvent le faire. Et qu'ils peuvent imposer une gestion collective de la société, à condition qu'ils en aient conscience, à condition qu'ils se battent tout simplement pour leurs intérêts. Et cette conscience politique, eh bien, elle se forge dans le combat des élections. Avec Macron, Fillon, Le Pen, Hamon et Mélenchon, on a droit à toute une palette de partis, du plus libéral au plus étatiste, du plus xénophobe au plus tolérant, mais aucun d'eux ne représente les intérêts des travailleurs, et il faut le dire. Pour Fillon, les choses sont assez claires. Lui-même revendique être le serviteur dévoué de la bourgeoisie. Et puis, il faut le dire, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, avec son arrogance, avec ses leçons de morale, du genre « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Fillon s'est quand même lancé, il faut se souvenir, dans cette campagne, comme l'homme de la probité, de la rectitude. Vous savez, un catholique pratiquant, prêt à faire don de sa personne à la France. Et puis patatras, il a suffi que le canard enchaîné fasse une enquête, qu'il tire sur un fil, et la pelote est venue. Et quelle pelote, je devrais dire même le ballot de laine. Parce que Fillon est maintenant poursuivi pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus sociaux, manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité sur la transparence de la vie publique et faux et usage de faux. Et puis je passe bien sûr sur les costumes, la montre, les commissions à 50 000 euros. Voilà. Mais au-delà de toutes ces turpitudes, eh bien regardons bien son programme. La fin des 35 heures. La suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, la retraite à 65 ans, plus d'impôts pour les pauvres, moins pour les riches. Regardons bien ce programme, parce que c'est le programme de la grande bourgeoisie, c'est le programme du grand patronat, c'est le programme du MEDEF. Et la réalité, c'est que quel que soit le président de la République élu, c'est ce programme qu'il cherchera à imposer. Alors, il faut nous tenir prêts, nous sommes avertis, oui, il va falloir se défendre. Macron, lui, joue la carte de la jeunesse et de la fraîcheur. Mais Macron, c'est l'enfant de Hollande et de Sarkozy, fiancé à Bayrou. Bref, c'est comment faire du neuf, mais avec du vieux quand même. Macron, qui a été banquier chez Rothschild, a gagné 3 millions, 1 million par an pour jouer l'intermédiaire entre des requins de la finance, et il se dit aujourd'hui fier d'avoir, à la différence des autres candidats, une expérience professionnelle. Comme si cela lui donnait une idée concrète de la vie de l'écrasante majorité de la population. Macron regarde la société de sa fenêtre de bourgeois. Et que dit-il à la jeunesse ? Créez votre activité, devenez auto-entrepreneur. Résultat, vous livrerez des pizzas, comme les jeunes d'il y a 30 ans. Mais au lieu d'être en scooter, vous serez à vélo. Et si vous avez un accident, eh bien vous n'aurez même pas de couverture sociale parce que vous n'êtes pas salarié. Ou au lieu d'être chauffeur de taxi, vous êtes chauffeur Uber. Au lieu d'être manutentionnaire chez Carrefour, vous l'êtes chez Amazon. Mais vous alignez autant d'heures de travail, voire plus, et vous êtes aussi mal payé. Et puis, il faut quand même bien s'en souvenir. Macron a été au pouvoir pendant 2 ans. Juste 2 ans. Mais en 2 ans, il a réussi à attacher son nom à 2 lois anti-ouvrières. La loi Macron, qui a étendu le travail du dimanche, et la loi El Khomri, qu'il aurait voulu plus dur encore. Eh bien, pour nous, c'est assez clair. 2 ans, ça nous suffit. Le Pen, de son côté, se prétend la candidate du peuple. Mais elle appartient au même monde que Fillon ou Macron, celui des riches, qui usent de tous les moyens pour accroître leur fortune. Elle a même transformé son activité politique en petite entreprise familiale prospère. La seule chose qui la distingue, c'est qu'elle a toujours été écartée de la mangeoire gouvernementale. Mais à l'image de ses nouvelles idoles, le milliardaire président Trump et Poutine, le grand chef de l'oligarchie russe, eh bien elle veut servir les capitalistes et les banquiers. Et plus elle s'approche du pouvoir, plus elle leur fait des œillades. Elle aussi, elle prévoit des suppressions d'emplois dans la fonction publique, la baisse de l'impôt sur les sociétés et la baisse des cotisations patronales. Mais en même temps, cette démagogue laisse entendre aux classes populaires qu'elle reviendrait à la retraite à 60 ans et qu'elle versera une prime pour augmenter les plus bas revenus. Dans son programme, cette prime est quand même passée de 200 euros en 2012 à 80 euros cette année. Mais surtout, elle prévoit de nous la faire payer. Autrement dit, si nous voulons des augmentations de salaire, c'est à nous de nous les payer. Elle prévoit de nous la faire payer en augmentant, en taxant les importations de 3%. Autrement dit, nous paierons tous, parce qu'avec cette nouvelle taxe aux frontières, tous les prix augmenteront, et puis nous paierons une seconde fois. Parce qu'avec son mot d'ordre de préférence nationale, eh bien Le Pen affaiblit le monde ouvrier en le divisant. Comme si le problème venait des étrangers. Mais qui est-ce qui supprime des emplois dans le pays? Qui comprime les salaires? Ce ne sont sûrement pas les immigrés qui travaillent sur les chantiers, sur les chaînes de montage, dans la restauration ou le nettoyage. Si Le Pen parvenait au pouvoir, elle mènerait sur le fond la même politique que les autres, en étant encore plus dure avec les étrangers, comme on le voit aujourd'hui avec Trump aux États-Unis, et plus autoritaire avec tout le monde. Alors, aux copains de boulot, aux voisins, à celui qui regarde vers Le Pen, il faut dire « laisse ce vote aux bourgeois du 16e arrondissement qui ne supportent pas la vue d'un centre pour SDF. Laisse ce vote aux nostalgiques de l'Algérie française ou du régime de Vichy. Laisse ce vote à la manif pour tous, aux nasillons mal vieillis. Laisse ce vote aux policiers racistes qui cognent sur ceux qui sont noirs en plus d'être pauvres. Ne vote pas contre les immigrés qui sont nos frères de classe. Vote pour tes intérêts, vote pour ton camp, vote pour le camp des travailleurs. » Continuer sur la liste des prétendants à l'Élysée, eh bien, je voudrais parler de Macron. Pardon, pas de Macron, de Hamon. Macron, c'est bon. Je lui ai fait son... Donc, à gauche, Hamon a repris la ritournelle de tous les candidats socialistes à la présidentielle. Vous savez, faire rêver, réenchanter l'avenir. Mais regardez même son histoire de revenu universel. Au départ, ce revenu était présenté sous la forme d'un revenu de 750 euros, versé sans condition à tout individu dès sa naissance. Ce revenu universel a fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, cela a été de l'encre gaspillée, parce que Hamon ne prévoit plus qu'un RSA amélioré. Habituellement, les socialistes renient leurs promesses une fois arrivés au pouvoir. Eh bien là, la promesse n'a même pas tenu le temps de la campagne. Et ce qui est révélateur, c'est que Hamon a reculé parce qu'il ne trouvait pas comment financer cette mesure. Parce que la réalité, c'est qu'il ne veut rien imposer au patronat et il ne veut surtout pas le faire payer. Alors oui, Hamon est bien le digne héritier du Parti socialiste. Et s'il arrivait au pouvoir, eh bien il ferait comme ses ancêtres, Mitterrand, Jospin et Hollande. Il trahirait et il démoraliserait ceux qui l'ont élu. Et puis, en concurrence avec Hamon, pour incarner la vraie gauche, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon. Son langage et ses coups de colère font mouche dans les déçus du Parti socialiste. Et le fait que le Parti communiste ait fini par le choisir lui donne une base militante dans les classes populaires. Mélenchon promet de revenir à la retraite à 60 ans, de réduire le chômage, de porter le SMIC à 1 300 € net et d'augmenter les petites retraites. Mais attention, il se veut responsable et il assure donc au patronat que toutes ces mesures ne lui coûteront rien. Pour compenser, Mélenchon a d'ailleurs prévu la baisse de l'impôt sur les bénéfices, qui passerait de 33% à 25%. Et puis surtout, il promet, lui, de relancer l'économie. Parce que pour Jean-Luc Mélenchon, s'il y a 6 millions de chômeurs, si le niveau de vie des classes populaires s'effondre, c'est parce que depuis 15 ans, il n'y a que des mauvais pilotes au sommet de l'État, mais avec lui, tout va changer. Grâce à sa politique, le capitalisme sortira de la crise dans laquelle il s'enfonce et les capitalistes cesseront de fermer des usines, de licencier, ils arrêteront d'orienter tous leurs capitaux vers la finance. Eh bien tout cela, c'est semer de graves illusions sur ce qu'est le capitalisme. Quelles que soient les politiques publiques, que l'on sorte ou pas de l'Union européenne, comme l'envisage Mélenchon, l'avidité et la dictature de la grande bourgeoisie sur les travailleurs et sur l'économie ne disparaîtront pas d'un coup de baguette magique. Jean-Luc Mélenchon se pose en anti-système et parle de révolution citoyenne parce qu'il parle de 6e République. Mais prétendre redonner le pouvoir au peuple sans l'enlever des mains des vrais maîtres de la société que sont les capitalistes, cela relève d'un tour de passe-passe. Les régimes se sont succédés. Mais l'appareil d'État, lui, s'est maintenu, souvent avec les mêmes hommes au poste clé, hommes liés aux plus riches. Et puis les grandes familles bourgeoises ont traversé tous les régimes en s'adaptant et en ne cessant jamais de s'enrichir. Prenez le groupe Lafarge. Il a fait des affaires sous tous les régimes depuis plus d'un siècle. Il a prospéré sous la 3e République, la 4e, la 5e. Il a participé à la construction du mur de l'Atlantique sous Pétain et Hitler. On a appris récemment qu'il a poursuivi ses affaires en Syrie sous Daesh. Et puis hier, il se proposait pour construire le mur de Trump entre le Mexique et les États-Unis. Autant dire que ce n'est pas une 6e République qui l'arrêtera. Parce qu'il ne veut pas être taxé de laxiste, Mélenchon tient sur l'immigration des propos plus qu'ambigus. D'un côté, pour ne pas heurter une partie de ses électeurs, il promet de donner des papiers à ceux qui ont un contrat de travail. Mais juste après, il n'hésite pas à affirmer qu'il n'y a pas les moyens d'occuper tout le monde et il justifie donc l'expulsion, je cite, de ceux qui n'ont ni papiers ni contrat de travail parce que, dit-il, c'est la loi et je ne sais pas quoi en faire. Eh bien, l'emballage se veut peut-être un peu plus présentable, mais c'est ce que l'on entend du côté de Le Pen. Eh bien, ce n'est pas ainsi que l'on pourra contrer son influence dans les classes populaires. Il faut le dire clairement. Non, il n'y a pas de problème d'immigration. Il y a le problème d'une minorité qui accapare les fruits des richesses que nous produisons tous collectivement. Alors restons fidèles aux mots d'ordre qui ont fait honneur au mouvement ouvrier. Liberté de circulation et d'installation pour tous les opprimés de cette terre. Émancipation des travailleurs à l'échelle de la planète. Émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. travailleurs français immigrés, même patron, même combat. Absolument. Au bout du compte, dans le cadre de cette compétition électorale, on voit les principaux candidats s'opposer, sans rivalité, évidemment. Mais ils partagent le même parti pris fondamental. Ils sont convaincus que sans les capitalistes, il n'y a pas de croissance, pas de prospérité, pas d'emploi, pas de vie économique. Leur politique consiste donc à faire la politique qui convient à cette classe capitaliste et aux plus riches. Eh bien, j'appelle les travailleurs à affirmer l'inverse. J'appelle les travailleurs à dire que nous ne sommes pas dépendants de cette classe capitaliste. Je les appelle à dire que la bourgeoisie n'est rien sans nous, les travailleurs. Les Arnaud, les Drahi, les Bettencourt ne seraient rien sans les centaines de milliers de salariés qui travaillent dans leurs usines et leurs bureaux. Ils ne seraient rien sans leurs comptables, sans leurs chauffeurs, sans leurs femmes de ménage ou leurs majordomes. Même pour manger, ils ont besoin de nous. Oui, ensemble, nous faisons tourner toute la société, nous produisons toutes les richesses, y compris les super-profits qui sont encaissés par une minorité, y compris les produits de luxe qui sont réservés aux plus riches, les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Alors oui, nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Eh bien, il faut que nous l'affirmions et il faut que cela soit notre boussole politique. Nous sommes mille fois plus légitimes à mettre en avant nos revendications que cette classe minoritaire et parasite. Nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie doivent passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires, avant les fortunes de la minorité capitaliste. Si l'on veut que le camp des travailleurs se renforce, qu'il soit visible, y compris par tous ceux qui sont écœurés de la politique, comme par ceux qui veulent voter pour le Front National, il faut qu'il se manifeste dans cette élection. Il faut que les travailleurs mettent en avant leurs intérêts, leur politique, leur programme. Et le premier point de ce programme, c'est bien sûr d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas garantir les emplois, qu'il leur faut de la flexibilité. Mais nous, travailleurs, eh bien, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille, les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Il faut remplir l'estomac des enfants. Alors oui, il faut que tout le monde ait un emploi et un salaire. Et la première mesure de bon sens, c'est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices. On me répond souvent que c'est une contrainte intenable. Rendez-vous compte de la contrainte. La BNP Paribas a réalisé 7,7 milliards de bénéfices et elle procède actuellement à la suppression de près de 700 emplois. Maintenir ces emplois, répartir le travail entre tous, lui coûterait un petit 0,3% de ses profits annuels. Et on peut faire le calcul pour Orange, pour SFR, pour Peugeot Citroën, pour les multinationales de la pharmacie comme Sanofi, pour les assurances, c'est la même chose. Tous ces grands groupes sont à la fois des groupes prospères et des grands fabricants de chômeurs. Et puis on m'oppose en permanence les PME, les petites et moyennes entreprises. Mais il ne faut pas être dupe. La grande majorité sont des extensions des grands groupes, créées artificiellement par le biais de l'externalisation et de la sous-traitance pour diviser les travailleurs et pour que les grands groupes se déchargent de leurs responsabilités sur des patrons plus petits. Eh bien, il n'y a aucune raison d'accepter d'être licencié parce qu'on travaille dans une petite entreprise de nettoyage, de maintenance ou d'ingénierie. Quant aux petites entreprises et aux artisans, ce qui les étrangle, ce ne sont pas les salaires qu'elles versent, ce sont les banques et les donneurs d'ordre. Alors oui, interdiction des licenciements et que les groupes capitalistes et les banques payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Parallèlement, il faut aussi créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot par-ci, par-là, pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. Et c'est possible, en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, dans le privé et dans le public, la charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail, auxquels il faut ajouter le temps de transport, sont devenus insoutenables. Il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant de vrais emplois avec un salaire complet. Regardez les services publics. Prenez les hôpitaux. Est-ce qu'il y a trop de personnel? Est-ce qu'il y a trop d'enseignants dans les écoles? Trop de bras dans les maisons de retraite? On le voit dans toutes les régions. Il manque des milliers de cheminots à la SNCF. Il manque des postiers dans les bureaux des quartiers populaires. Il manque des centaines de crèches. Alors que l'on ne nous fasse pas croire qu'il n'y a plus de travail. Oui, il faut créer des emplois et il faut se répartir le travail. Cela nécessite d'imposer nos intérêts contre ceux du grand patronat et de l'État, et nous ne pourrons le faire qu'au travers d'une mobilisation déterminée et en étant prêts à mener le combat jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'expropriation et jusqu'à la réquisition de tous ces grands groupes qui dominent aujourd'hui l'économie. Cela, eh bien, il faut aussi augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous expliquent qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC parce que cela leur poserait des difficultés. Ils raisonnent tous du point de vue du patronat. Pas un ne se demande comment on arrive à boucler les fins de mois quand on gagne 1150 euros par mois et moins quand on est à temps partiel ou au RSA. Pour tous ces gens-là, la priorité, c'est toujours les affaires et la prospérité du patronat et du grand patronat. C'est toujours les affaires du CAC 40. Il faut d'abord que cela aille bien de ce côté-là, que le grand patronat soit comblé, et ensuite, peut-être qu'un jour, ces messieurs-dames se pencheront sur le sort des travailleurs. Eh bien, on peut toujours attendre. Alors, dans cette élection, j'appelle les travailleurs à reprendre la revendication de 1 800 euros par mois, mise en avant par certaines fédérations de la CGT. Mais nous, nous parlons de 1 800 euros net par mois, parce que ce qui compte, c'est l'argent qui rentre dans nos poches. Cette mesure, je le sais, choque beaucoup de journalistes. À l'un d'eux, j'ai demandé combien il lui fallait pour vivre. Il l'a mal pris, il ne m'a pas répondu, ce n'était pourtant pas méchant. Je voulais juste l'inviter à faire ses comptes, parce que nous, nos comptes, eh bien nous les faisons tous les jours, et on mesure ce qu'il nous manque pour vivre, sans l'angoisse du lendemain. Je sais que pour ceux qui galèrent avec 900 ou 1000 euros par mois, 1800 euros net, cela peut apparaître comme le bout du monde. Mais c'est bien parce que qu'il nous habitue à vivre avec quasiment rien qu'on trouve que 1800 euros par mois, c'est beaucoup. La réalité, c'est ce qu'il faut pour pouvoir se loger, pour pouvoir se soigner, pour pouvoir se chauffer correctement, pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour payer des études à ses enfants. Alors oui, ce qu'il faut, c'est 1 800 euros par mois. Et puis, bien sûr, comme tous les salaires augmentent en permanence, même si on nous dit qu'il n'y a plus d'inflation, eh bien, il faut aussi que nos salaires et les pensions de retraite suivent l'augmentation du coût de la vie. Parce qu'il suffit de regarder sa taxe d'habitation ou sa facture d'électricité avec celle de l'année dernière pour se rendre compte que tous les prix augmentent. Alors, en plus d'un minimum de 1 800 euros net par mois pour le SMIC, pour les pensions de retraite, pour l'allocation adulte handicapé, eh bien oui, nous disons qu'il faut l'augmentation des salaires de 200 à 300 euros. Et il faut qu'ils soient indexés sur les prix. Parce que ce qui compte, c'est qu'ils suivent le coût de la vie, le coût de la vraie vie, et pas les indices officiels qui sont manipulés par le gouvernement. on me dit que tout cela, c'est de l'utopie. Mais dans notre société, toucher 45 000 euros par jour, comme Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, ce n'est pas l'utopie, ça c'est normal. Toucher plusieurs millions par semaine, comme Madame Bettencourt, c'est aussi normal. Alors quand tous ces gens-là nous disent à nous que nos revendications sont de l'utopie, eh bien c'est tout simplement qu'ils défendent leurs privilèges et qu'ils défendent le parasitisme de leur classe sociale. S'il y a une utopie dans toute cette affaire, c'est de croire que ces augmentations seront données par un président de la République. La réalité, c'est qu'il faudra l'arracher par nos luttes, et cela dépendra de notre détermination. Alors oui, affirmons fièrement qu'il nous faut des augmentations de salaire et que 1 800 euros net par mois, c'est le minimum. La bourgeoisie a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et elle en fait une arme pour imposer sa politique. Eh bien, nous devons revendiquer la levée du secret des affaires. Des milliers de salariés du groupe Vivart, de MIM, sont aujourd'hui menacés d'être mis sur le carreau. Ici, dans la région, ce sont les employés de la bijouterie de la Tour, les salariés de Numen Satel-Sidel que je salue, je sais qu'ils sont là pour certains d'entre eux. Ce sont les ouvriers de l'usine Cilia, juste en face, l'usine qui produisait des panneaux solaires, qui se retrouvent eux aussi mis devant le fait accompli de la fermeture de leur entreprise, alors qu'ils dépendent ou ont dépendu d'un groupe qui brasse ou a brassé beaucoup d'argent. La fermeture de ces entreprises est toujours justifiée par des évolutions du marché ou par de prétendues pertes. Mais la réalité, c'est qu'elles sont organisées, planifiées, programmées par des directions, et souvent par des directions de grands groupes, qui jouent au monopoly capitaliste, avec les emplois et la vie des salariés. C'est pourquoi il faut faire la transparence sur les décisions et sur les comptabilités de ces entreprises. Parce qu'on verrait alors les véritables circuits de l'argent. Et on verrait ce que l'entreprise verse réellement en salaire, ce qu'elle économise du fait de multiples exonérations de cotisations sociales, des niches fiscales. On verrait ce qu'elle verse en dividendes à ses actionnaires, ce qu'elle met en provision pour acheter d'autres entreprises ou même pour licencier. Oui, il faut que l'on puisse connaître les conditions faites aux sous-traitants, les marges que les uns imposent aux autres, y compris les dessous de table. Et puis on nous explique que la raison d'être de cette classe capitaliste, c'est d'investir. Eh bien, que l'on regarde aussi combien va à la recherche, à la formation, à l'investissement. Parce qu'en réalité, même cette fonction d'investir, la bourgeoisie ne la remplit plus, parce qu'elle a trouvé plus profitable pour s'enrichir, c'est-à-dire la spéculation. Et puis, plus qu'un droit au contrôle, il faudrait même parler de devoir civique, parce que c'est la seule façon de dénoncer et d'empêcher les crimes patronaux. Du scandale de l'amiante au Dieselgate, en passant par le Mediator des laboratoires Servier et la Dépakine de Sanofi, on a la preuve que le grand patronat n'a aucun scrupule à nous empoisonner. Alors oui, il faut savoir ce qui se passe dans les entreprises. Et les salariés sont aux premières loges pour cela. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG, parce qu'elle le prépare, le tape, l'envoie. Collectivement, en rassemblant toutes ces informations parcellaires, les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Les patrons le savent et ils le craignent, et c'est la raison pour laquelle ils ont imposé le secret professionnel aux salariés. Eh bien, il faut donner la possibilité à tous les salariés de se transformer en lanceurs d'alerte sans craindre d'être placardisés ou licenciés. Oui, il faut supprimer le secret des affaires. Cette mesure modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en nous donnant de nouvelles armes. Parce qu'il en serait fini du chantage patronal, il en serait fini des rumeurs, des fausses informations. Oui, nous saurions à quoi nous en tenir, nous pourrions anticiper, nous organiser face aux attaques patronales et même nous pourrions prendre l'initiative pour les empêcher de nuire. Alors, Alors voilà notre programme. Ce n'est pas, comme les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées, qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées d'ailleurs. Non, c'est un programme qui découle de nos besoins essentiels. Et les objectifs que nous mettons en avant n'ont rien à voir avec des promesses électorales. Ce sont des objectifs de lutte qui ne pourront être imposés qu'au travers d'une levée en masse du monde ouvrier, au travers d'un bras de fer qui amènera forcément les travailleurs à contester la propriété privée de la bourgeoisie sur les moyens de production. Nos adversaires ne s'y trompent pas et ils hurlent au mot de d'expropriation et de réquisition. Nous, on peut être expropriés de notre maison, de notre appartement, on peut perdre notre boulot, mais toucher à la propriété de la grande bourgeoisie, alors ça, non, c'est tabou. Eh bien, nous, nous disons que oui, il faut remettre en cause la propriété privée sur les moyens de production. Il faut contester la propriété privée de la bourgeoisie qui s'est édifiée sur la sueur de générations de travailleurs et qui continue de s'accroître au travers de notre exploitation. Oui, je suis communiste et je suis aussi candidate pour dire qu'il faut retirer à cette infime minorité immensément riche le pouvoir de maintenir dans l'esclavage salarial l'écrasante majorité de la population. Et je sais que certains, dans le monde du travail, ne se reconnaissent pas dans le monde des exploités, qui ne se sentent pas exploités, parce qu'ils ont un travail intéressant dans lequel ils s'épanouissent, ou parce qu'ils sont bien payés et qu'ils pensent avoir tiré leur épingle du jeu. Mais s'ils échappent à l'exploitation la plus brutale, ils n'échappent pas au pourrissement de la société. Ils n'échappent pas à la montée des idées réactionnaires, au racisme, à la xénophobie, à la montée du nationalisme. Ils n'échappent en réalité pas à la barbarie de la société. Même celui qui sort de son logement confortable du 6e arrondissement, eh bien il doit enjamber le SDF qui dort entre deux portes, et il se retrouve dans le métro, serré comme une sardine, quand il n'est pas pris de panique à la menace d'une alerte à la bombe. Et comment peut-il envisager paisiblement l'avenir pour lui et ses enfants, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient? Qui peut être certain que cette guerre ne dégénérera pas en une guerre plus large? On en a déjà l'écho ici, avec le terrorisme. La réalité, c'est qu'on est tous dans la même galère. Les voyageurs du Titanic, qui étaient en première classe, pouvaient peut-être se croire privilégiés, comparés aux troisième classe. Mais la réalité, c'est qu'ils ont sombré, exactement comme les autres. La question qui se pose à nous n'est pas une question individuelle, c'est la question de savoir où va notre société. Crise économique, crise des réfugiés, crise écologique, guerre. On voit bien que les dirigeants de notre planète ne maîtrisent rien, même sur le plan écologique. Tous les politiciens prétendent vouloir protéger la planète. Mais regardez comment les différents gouvernements sont incapables
qui laissent toujours le dernier mot
catastrophes qu'ils ont capitalistes annoncées. Et pourquoi cela? Eh bien parce qu'ils laissent toujours le dernier mot aux groupes capitalistes qui ne se préoccupent que de leur coffre-fort. Oui, le capitalisme est une menace pour l'humanité elle-même. Quand je me suis engagée à 18 ans, je ne supportais pas de voir l'Afrique ravagée par la famine dans une société d'abondance. Aujourd'hui, plus d'un quart de siècle plus tard, dans l'Est de l'Afrique, 20 millions de femmes et d'hommes, d'enfants, sont entre la vie et la mort. Faute d'eau potable, faute de nourriture. Et à côté de cela, le secteur du luxe, des ventes d'armes prospère. Oui, cette société est aveugle, parce qu'elle est dominée par de grands groupes capitalistes qui ravagent la planète, autant par leur rapacité que par leur rivalité. La seule force sociale capable de combattre cela, ce sont les exploités du monde entier. Ils n'ont jamais été aussi numériquement importants, car la classe ouvrière internationale n'a jamais été aussi présente partout sur la planète. Aujourd'hui, il lui manque l'ambition consciente d'avoir à transformer la société en expropriant la bourgeoisie. Mais le capitalisme ne quittera pas la scène de lui-même. Et on ne peut pas attendre les bras croisés qu'une nouvelle société émerge. Le remplacement du capitalisme par une économie rationnelle, collective et démocratiquement planifiée ne pourra être qu'un acte conscient et délibéré de centaines de millions d'opprimés. Et il dépend de nous, et en particulier des jeunes, d'en maintenir la perspective vivante. Et cette perspective, eh bien, elle va bien sûr avec l'internationalisme. Parce que le fait est que l'humanité n'a jamais été autant mélangée et proche. Parce qu'en même temps qu'il nous oppose, le capitalisme nous relie comme jamais. Aujourd'hui, les crises économiques du capitalisme se répandent à la vitesse de la lumière, au sens propre du terme. Un nouvel effondrement boursier à Wall Street, et c'est l'humanité tout entière qui plongera dans le marasme économique. Ce destin commun à tous les exploités est un fait irréversible. Mais il manque à la classe ouvrière la conscience d'appartenir à une seule et même classe internationale. Parce que, je l'ai déjà dit, le capitalisme pousse à la concurrence et il cherche à dresser les travailleurs les uns contre les autres. Et quand aucune frontière nationale ne nous sépare, eh bien il utilise les différences de sexe, d'origine, de couleur de peau pour implanter des frontières dans nos têtes et pour exacerber le racisme, la xénophobie ou le communautarisme. Alors oui, il faut des jeunes, il faut des femmes et des hommes qui aient aussi la volonté d'abattre toutes ces frontières et qui soient fiers d'affirmer « mon pays, c'est la terre et ma patrie, c'est l'humanité ». Société, la classe ouvrière aura bien des combats à mener, des petits et des grands combats. Et c'est dans ces combats pour ses intérêts vitaux qu'elle forgera la conscience de son rôle historique. Et pour cela, les luttes sociales, les grèves, les mouvements sociaux sont les combats qui comptent le plus. Mais le moindre débrayage, la moindre protestation, la moindre grève se prépare d'abord dans les têtes. La moindre lutte se prépare bien avant dans les esprits. On pèse le pour, le contre, on réunit son courage. Il faut être sûr de sa légitimité. Et puis on ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Et tout cela se forge dans le combat des idées et dans le combat politique. Alors il faut s'adresser à tous ceux qui regrettent le recul de la conscience ouvrière. Il faut les convaincre d'affirmer leur propre conscience de classe dans cette élection. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. J'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Bien sûr, voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais quand on a cette révolte, quand on a cette conscience, eh bien, il faut l'exprimer de façon à ce qu'elle devienne une expression collective, de façon à ce qu'elle permette de construire une force politique. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois, et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Eh bien, le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force, comme un camp politique. Et il faut aussi qu'ils se maintiennent après les élections. Parce que nous n'avons pas seulement besoin d'exprimer nos intérêts à un moment donné. Nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises et en permanence, contre la politique anti-ouvrière qui est relayée par tous les gouvernements qui se succèdent. Et cela, eh bien, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes, aux intérêts inconciliables, et que nous, nous devons nous battre en ne comptant que sur nos forces pour défendre notre droit à l'existence. Il faut un parti qui affirme que les travailleurs peuvent très bien se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Voter, ce n'est pas encore construire, un parti, mais s'est déjà rassemblé de façon ponctuelle derrière un drapeau, et d'élection en élection, de mouvements de grève en manifestation, eh bien tout cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque aujourd'hui tant à la classe ouvrière. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Oui, nous sommes à contre-courant. Non seulement parce que la crise pousse dans un sens toujours plus réactionnaire et barbare, mais pour une raison plus profonde liée à notre condition d'exploiter. Les travailleurs n'ont pas confiance dans leur force collective et plus fondamentalement, ils n'imaginent pas s'ériger en classe dirigeante. L'idée que les travailleurs peuvent peser par en bas, en s'organisant et en prenant eux-mêmes des décisions, est une idée bien en avance sur la conscience de la majorité des travailleurs. S'ils savent bien que le véritable pouvoir n'est pas à l'Élysée, mais dans les conseils d'administration des grandes sociétés, toute la hiérarchie sociale cherche à les convaincre que cet ordre est immuable et qu'on ne peut pas le changer. Alors oui, aujourd'hui, la majorité des travailleurs ne voit pas d'autre façon de diriger le pays que de s'en remettre à une classe politicienne dont on voit pourtant tous les jours qu'elle est pourrie. Ils sont piégés par le jeu électoraliste. Et c'est de cela d'ailleurs que profite Le Pen. On les a tous essayés sauf elle, entend-on. C'est l'expression de la désorientation et plus fondamentalement, c'est l'expression de la résignation et de la passivité politique. Alors le sens de notre combat, eh bien, c'est de conforter la conscience de classe. C'est de dire aux travailleurs qu'ils doivent avoir confiance dans leur force collective, qu'ils doivent avoir confiance dans leur propre capacité. C'est dans le feu de l'action, dans l'expérience de leur force, que le monde du travail redécouvrira sa force. Aujourd'hui, en Guyane, comme en Guadeloupe en 2009, des milliers de femmes et d'hommes ont décidé de dire que le chômage, la vie chère, ça suffit. Et ils redécouvrent leur force collective en agissant ensemble, de façon organisée. Ils redécouvrent qu'ils peuvent faire pression sur les autorités de Paris par en bas. Et cela leur ouvre bien d'autres perspectives que leur bulletin de vote. Et bien c'est justement dans ces situations d'explosion sociale que la présence de femmes et d'hommes qui ont pris conscience de leurs intérêts dans les combats politiques, dans les combats électoraux, est déterminante. En 2012, j'ai réalisé 0,56% des voix. Il faut bien sûr essayer d'en gagner de nouvelles. Mais il faut aussi avoir à l'esprit que si dans les urnes, 200 ou 300 000 voix pèsent peu face aux millions d'électeurs, dans les mouvements sociaux, il en est tout autre. Oui, 200 ou 300 000 femmes et hommes conscients de leurs intérêts et agissant quand la combativité des travailleurs se réveille, eh bien cela peut changer bien des choses. Alors oui, une par une, gagnons de nouvelles voix pour renforcer notre camp. Et pour finir, je veux redire que cela ne sert à rien de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire. Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté Hollande en 2012 et voudraient recommencer avec un autre ? Croire qu'il faut voter utile, voter pour le moins pire, de façon à se protéger, est également un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne renoue pas avec la tradition du mouvement ouvrier et avec ce qui lui a toujours permis d'avancer, c'est-à-dire les luttes collectives puissantes. Et puis je le dis aussi à ceux qui sont écœurés par le spectacle politicien et qui envisagent de s'abstenir. Certes, voter ne changera pas votre sort. Mais quand on a la possibilité de protester, de dire ce que l'on pense, eh bien il faut le faire. Et puis on le fait d'ailleurs tous les jours. On le fait au travail. On le fait quand une injustice se déroule sous nos yeux, même si l'on n'est pas en mesure de l'empêcher, parce que c'est aussi une question de dignité. S'abstenir, ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre. Et puis s'abstenir, c'est aussi déserter. Parce que si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera? Personne ne se battra à notre place. Parfois, on ne trouve pas les moyens de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester. Parce qu'on est seul ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous. Et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, c'est tout le contraire. La moindre voix compte et la moindre voix peut porter. Alors, il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. C'est un vote de conscience, de fierté et de combativité ouvrière.